pour une foi fermement positionnée. Et je voudrais, au travers de quatre messages ce mois de juillet, parler ou aborder quatre personnages bibliques différents qui vont nous donner chaque fois des aspects différents sur ce thème. Nous remarquons tous, non seulement nous, pasteurs, mais qu'il y a bien des personnes qui ont bien commencé, qui ont fait de déclarations de foi et qui ont cru de tout leur cœur et qui ont vécu quelque chose, mais qui, dans la durée, n'ont pas persévéré, qui, à un moment donné, ont relâché, abandonné, parce que peut-être pour eux, il y a eu déception, ou peut-être que la foi n'a pas rapporté ce qu'ils attendaient. Je pense à quelqu'un qui, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, disait « Si Dieu me guérit, je lui donnerai ma vie. » Aujourd'hui, elle est décédée, cette personne. Ainsi, il y a cette persévérance dans la foi et que nous puissions réaliser les conditions de Dieu pour la persévérance, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Je pense encore à des personnes qui ont quitté l'Église pour différentes raisons, parce que les raisons peuvent être multiples. À tort ou à raison, ils ont abandonné l'Assemblée pour vivre leur foi en solo, mais ils ne sont pas aujourd'hui en meilleure forme qu'autrefois, pour autant. Et beaucoup aujourd'hui dans notre Europe se détournent de la foi en Jésus, de ce chemin étroit pour finalement aller chercher ou se construire, ou je dirais presque se bricoler une foi à la carte, où on va chercher des petites choses à droite, à gauche qui nous arrangent et qui peuvent nous donner un semblant de paix et de bien-être personnel. Ce que je voudrais dire au travers de ce thème de la foi fermement positionnée, c'est que Jésus nous invite sur un chemin étroit. Jésus ne nous invite pas dans une cure de wellness, dans un bien-être permanent, même si Jésus nous fait du bien non-stop, même quand tu dors, il te fait du bien, mais que cela reste un chemin étroit, étroit. Alors ce chemin étroit, ce n'est pas devenir étroit d'esprit, ce n'est pas devenir triste et austère dans sa vie où il n'y a plus rien, où on peut se permettre rien du tout, se laisser aller dans la tristesse et vraiment cette espèce de limitation complète de la vie, ce n'est pas du tout cela. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Je pense à ce frère qui s'appelle André Bergeslov, qui est un homme, pasteur russe, qui, dans un accident de voiture, a été déclaré mort. Pendant plusieurs heures, il était à la morgue, il a eu une résurrection. Je ne vais pas raconter son témoignage, mais il racontera, depuis ce jour-là, ça s'est passé il y a 10 années, il racontera que lorsqu'il s'est élevé au-dessus de la ville où il était, en esprit, il était dans un autre monde déjà, son corps était mort, mais lui était au-dessus de la ville, positionné sur un espèce de temps fixe. Et il a vu 2 chemins, le chemin large et le chemin étroit. Et depuis ce jour-là, c'est le message qu'il prêche. Le chemin étroit est indispensable pour avoir une foi qui persévère dans la durée. Nous allons dans quelques instants nous tourner dans l'Épître aux Hébreux pour découvrir le personnage duquel nous allons parler. L'Épître aux Hébreux a été écrite justement pour des personnes qui étaient en train de lâcher prise pour les uns et les autres. Certains étaient tentés d'abandonner leur foi à cause de difficultés, dangers, persécutions. D'autres étaient devenus lents à comprendre. Avez-vous rencontré des gens qui sont lents à comprendre les choses spirituelles? Les Hébreux étaient comme cela. Les vérités spirituelles n'entraient pas. C'était comme une terre qui était arrosée, mais ça ne pénétrait pas à l'intérieur pour être efficace. D'autres avaient perdu la suprématie de Christ et étaient tentés de retourner dans le judaïsme. Et l'apôtre donc a besoin de repositionner tout cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. C'est une assurance intérieure. Une assurance qui se positionne non pas dans les émotions, mais dans l'esprit. Il faut faire la différence. Quand vous avez une foi qui est ancrée dans l'esprit, dans votre esprit, cela surpasse les émotions, le corps et les circonstances. Cela est une base. Le terme grec veut dire une base, une substance, une base. La foi est une ferme, une base solide des choses qu'on espère. Hébreu toujours, il est dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore deux versets d'introduction. Retenons fermement la profession de notre foi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La version du Semeur dit ceci, retenons fermement, restons attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. La foi et la persévérance sont deux choses qui sont citées ensemble à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Hébreux 6, versets 11 et 12. Puis, d'autres textes également nous disent la même chose dans Romains 5, versets 3 et 4. Il est dit que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Nous allons maintenant lire le texte qui est prévu pour ce matin. Nous tournons dans Hébreux, chapitre 11, et nous allons tout d'abord le lire comme cela. Ensuite, je vais le relire avec les images qui vont suivre et aborder dans chaque verset un point différent. Verset 23, donc Hébreux 11, 23. « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui était invisible. » Je voudrais juste qu'on garde maintenant les points les uns après les autres, juste une phrase, et ensuite nous allons détailler cela pendant quelques instants. C'est par la foi, tout d'abord, que Moïse, à la naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Nous allons parler de la foi des parents de Moïse. Ensuite, deuxièmement, au verset 24, nous lisons, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Nous allons parler, qui suis-je? Quelle est donc mon identité? Verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous allons parler, la deuxième question, répondre à cela, à qui est-ce que j'appartiens? Clarifie ton appartenance. Verset 26, Hébreux 11, 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous répondrons à la question, où est mon trésor? Clarifie tes priorités. Et enfin, le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quelle est ton attache? Clarifie ta position. Il y a donc dans ces quelques versets une révélation pour nous, un message pour nous, concentré dans quelques versets sur la vie de Moïse. Nous n'avons pas besoin de détailler la vie de Moïse ce matin, mais nous voulons nous centrer sur notre thématique, la fermeté dans la foi qui transparaît clairement dans ces quelques versets. Imaginez la naissance d'un enfant dans le contexte de l'époque. Israël était en esclavage. Depuis des générations, depuis plusieurs siècles déjà. Et voilà que le verdict de Pharaon était de mettre à mort les garçons à cause de la grande multiplication des Hébreux, des enfants. Eh bien, il y avait une menace de mort qui pesait sur tout enfant mâle qui devait naître. Imaginez ce qui se passait dans le cœur de ses parents lorsque Madame s'est retrouvée enceinte. La Bible dit que c'était une fille de Lévi et un fils de Lévi. Ils étaient des croyants, c'était des gens qui venaient de la ligne sacerdotale. Et lorsqu'elle se retrouve enceinte, au lieu d'être complètement dépitée, angoissée, craintive, en se demandant que va devenir notre famille, que va devenir l'enfant qui va naître, dans quel monde est-ce qu'il va apparaître, quelle menace terrible pèse sur lui, la Bible dit que c'est par la foi que les parents, ils ont vu que l'enfant était beau. Faut-il la foi pour dire que l'enfant est beau? Non, franchement. Il n'y a pas besoin de la foi quand même pour ça. Il faut de l'observation, il faut juste laisser son instinct paternel et maternel sortir et puis l'enfant est beau de toute manière. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit que par la foi, ils ont vu que l'enfant était beau? Parce qu'ils avaient le regard de Dieu sur la destinée et l'avenir de cet enfant. Ils ont élevé leur regard des circonstances accablantes du moment présent. Ils ont élevé leur regard sur les menaces de la puissante main de Pharaon. Ils n'ont pas craint l'édit du roi, mais ils ont craint Dieu, le créateur de toutes choses. Et ils ont dit, quelles que soient les choses que le monde va lui apporter, en positif, en négatif, en bien ou en mal, Dieu a quelque chose pour notre enfant. Et ceci est révélé dans Hébreu. Ce n'est pas révélé dans le texte de l'Exode, c'est révélé dans Hébreu, le texte sur la foi. Et puis lorsque Étienne va prêcher dans Actes chapitre 7, raconter toute l'histoire d'Israël, il va dire également que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, vous avez besoin, j'ai besoin d'avoir le regard de Dieu sur la création de Dieu, sur la famille. J'ai besoin de recevoir et de garder le regard de Dieu, de voir la beauté, le projet de Dieu dans un monde où les circonstances sont adverses. Les circonstances étaient au pire du temps de Moïse. Elles ne sont pas comme ça aujourd'hui, bien que on pourrait discuter de cela par rapport à tout ce qui est avortement ou autre. C'est aussi des menaces pour l'enfant à naître, bien sûr, aujourd'hui. Mais ils avaient cette juste vision. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous discutions avec un couple qui avait des enfants adultes, qui étaient mariés. Et ce couple me disait, à refaire aujourd'hui, on n'aurait plus d'enfants. Et j'ai déjà entendu ça, même au milieu de nous. Nous n'avons pas tellement envie d'avoir des enfants, parce que dans quel monde est-ce qu'on va les mettre? Dans quel monde vont-ils grandir? Qu'est-ce qu'ils vont avoir dans 20 ans, dans 50 ans? Et à cause de cette crainte, le projet de Dieu est ramené à une vision terrestre, frères et sœurs, par la foi. Par la foi, par le regard, par une foi positionnée dans le Seigneur, les circonstances les pires ne peuvent détruire la foi de celui qui regarde à Dieu et qui s'accroche au projet éternel du Seigneur. Le projet de Dieu doit vaincre par rapport à la vision que nous avons dans le monde. Et plus ils regardent l'enfant, plus ils ont la foi pour l'avenir de cet enfant. Plus ils prient pour l'enfant, plus ils sont autour de ce berceau en train de prier, « Seigneur, ne nous donne pas de craindre l'édit du roi et de voir tout ce qui est possible d'arriver dans ce monde d'esclavage. Seigneur, il y a un appel, il y a une destinée. » Et plus ils priaient, ils sentaient qu'il y avait une destinée particulière sur ce petit. Ils sentaient qu'il y avait un appel, ils sentaient qu'il y avait quelque chose, une mise à part de cet enfant. C'est par la foi qu'ils ont caché cet enfant. Parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. J'aimerais que dans ce premier point, nous puissions avoir la foi pour notre famille. Nous puissions avoir la foi pour le projet de Dieu qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Les temps peuvent devenir pires, mais la foi du peuple de Dieu sera mise à l'épreuve. Nous devons nous accrocher à ce que Dieu dit, et Dieu n'a jamais changé d'avis. Il est même dit dans ce texte, lorsque vous lisez Actes chapitre 7, que vers la fin, à l'approche de la libération, après 430 ans d'esclavage, le peuple s'accrut et multiplia. Il y avait comme une courbe ascendante. La multiplication allait crescendo juste avant le départ vers la libération. Humainement, il n'y avait pas d'espérance. Ils étaient esclaves de père en fils. Il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait rien à prendre dans ce pays. Et toutefois, il y avait une foi, et les enfants arrivaient les uns après les autres, parce que quelque chose de nouveau était en train de se faire. La vision de Dieu commençait à prendre dans leur cœur. Et spécialement dans les parents de Moïse, puisqu'ils sont cités ici comme exemple de foi. Viendra le moment où le petit va être confié au Nil. Et puis les parents ne peuvent plus avoir prise sur lui. Ils ne peuvent plus l'enseigner, ils ne peuvent plus prier. Ils peuvent prier à distance bien sûr, mais ils ne peuvent plus être avec lui. Il faut le lâcher, chers parents. Viendra le moment, pour vous et pour moi, où il faut abandonner nos enfants au cours de la vie, sur le fleuve de vie que nous ne contrôlons pas. Et il faut les abandonner, et tout ce que nous avons semé dans leur cœur pendant qu'ils étaient avec nous, va porter du fruit. Mais tout ce que vous n'avez pas fait quand vous pourriez le faire, les regrets sont trop tard. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus rattraper le passé et dire « Ah, j'aurais dû faire ça vite, il faut encore... » Non, c'est trop tard. Une fois qu'ils sont abandonnés au cours de la vie, qu'ils sont pour eux-mêmes, ils ont pris la rivière qui va les amener plus loin, eh bien, c'est ce que vous avez fait qui va compter. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin, dans la foi et la persévérance, maintenez votre position fermement à la maison et faites ce que Dieu vous demande de faire par rapport à vos enfants. Ainsi, cet enfant est comme protégé à cause de la vocation particulière qu'il y a autour de lui. Lorsque nous consacrons des enfants ici, lorsque nous prions, ce n'est pas juste un acte rituel d'église, c'est une véritable consécration. Lorsque nous bénissons l'enfant, lorsque je pense à des enfants qui ne sont plus dans l'église aujourd'hui, mais qui ont été consacrés ici, ce n'est pas neutre ce qui s'est passé ici. C'est un acte spirituel dont Dieu se souvient. Et même si l'enfant l'a oublié, devenu adulte, il l'a oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Et le cours de la vie, le fleuve de vie va l'amener un jour ou l'autre à se rappeler qu'il y a une vocation sur sa vie, qu'il y a un appel sur sa vie, qu'il y a eu des prières pour sa vie, qu'il y a eu des parents chrétiens, qu'il y a eu la Bible, qu'il y a la présence de Dieu. Il ne peut pas échapper, car la Bible dit « Si j'habite au bout du monde, là aussi ta main me conduira. » Psaume 139. « Là aussi ta main me conduira. » Nous avons parlé de la foi des parents qui avaient un positionnement de foi ferme. Eux, esclaves dans un monde de dictature incroyable. Et nous allons maintenant parler de la foi de Moïse. Il est dit au verset 24, « Moïse devenu grand ». Nous allons parler de quatre choix de Moïse qui sont les choix qui vont m'inspirer et t'inspirer ce matin. Ce sont des choix d'adultes. Amen. Des choix d'adultes. Moïse devenu grand, il a fait un choix d'adulte. Le premier choix, c'est qu'il va refuser quelque chose. Il refusera quelque chose. Ce petit berceau, abandonné sur le cours du Nil, va arriver près de la fille de Pharaon qui prenait un bain dans le Nil. Elle va l'adopter, elle va être touchée. Le plan de Dieu va s'enclencher à partir de ce moment-là. Et il va être adopté. Son nom sera Moïse, celui qui a été retiré des eaux. Il deviendra donc, comme nous le savons, prince d'Égypte. Et ce qui paraît être une direction divine incroyable, cet enfant hébreu qui trouve grâce auprès de la royauté même, c'est juste incroyable. Mais cette direction divine incroyable va devenir un test incroyable pour sa foi. Ce qui paraît être une bénédiction dingue, va devenir une épreuve de foi. Mes amis, nous avons des avantages, des bénédictions, mais Dieu peut se permettre de mettre son doigt sur nos bénédictions pour voir est-ce que nous sommes accrochés aux bénédictions et aux privilèges ou est-ce que nous sommes accrochés aux valeurs invisibles et éternelles. Car les valeurs visibles sont passagères, mais les valeurs invisibles et éternelles persisteront et nous les retrouverons dans l'éternité. Le Seigneur voudrait, au travers de l'exemple de Moïse, qui a laissé cet appel se réveiller en lui, qui à un moment donné a compris les choses spirituelles. Peut-être que vos enfants aujourd'hui sont fermés aux choses spirituelles, ils ne veulent pas de ces choses-là. Ils touchent que ce qu'ils voient, ils surfent sur les privilèges, ils surfent sur les avantages et la facilité de vie, mais il y a quelque chose qui doit se réveiller. À un moment donné, Moïse a réveillé son âme et son esprit. Il a vu qu'il y avait un appel sur sa vie. Il ne pouvait pas tout comprendre, il n'avait pas encore eu la révélation du buisson ardent. Ça viendra plus tard. Il y a eu 40 dans la vie de Moïse, il y a eu 40 ans en Égypte, à la cour de Pharaon, 40 ans à Madian dans le désert, et 40 ans la marche dans le désert avec Israël. Donc il n'a pas encore vécu la révélation déterminante. Qui lui donnera l'onction et la puissance pour confronter Pharaon, c'est avant. Déjà avant, il y avait suffisamment de révélations dans son cœur pour prendre des décisions. Mon frère, ma sœur, tu n'as peut-être pas eu la révélation que le frère vous a racontée tout à l'heure. Tu n'as peut-être jamais vu Jésus en croix ou une révélation spécifique de qui il est. Mais aujourd'hui, tu as assez de foi, tu as assez de révélation pour prendre les bonnes décisions. Tu as ce que tu as vécu, il y a assez en toi pour prendre des décisions qui vont tenir ta foi dans la durée. Il y a assez. Moïse, à un moment donné, va passer par ce test et il va comprendre. Mais en fait, qui suis-je exactement ? Je suis hébreu, mais je suis élevé égyptien. Il y avait deux identités en lui. Il y avait deux Moïse qui habitaient, qui cohabitaient en lui et il ne savait plus. Mais par la grâce de Dieu, par la foi, il nous a dit, par la foi, il a pris position. Il a pris la bonne décision. Au lieu de dire, je suis moitié-moitié, 50-50, je vais choisir le meilleur. Aux yeux des hommes, il va dire, je suis 50-50 et je vais basculer du côté éternel. J'ai basculé du côté fils d'une promesse, fils du libérateur, fils de Dieu, fils du sauveur, fils du Dieu éternel, plutôt que fils de la fille de Pharaon. Son identité va changer. Je vais quitter le monde et la chair pour me tourner vers l'esprit et les choses éternelles. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a pris une décision ferme. Mes amis, vous ne pouvez pas tenir dans la durée si votre identité n'est pas clarifiée au départ. Votre identité doit être « je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis une fille du Seigneur et je le sais. » Et on peut me dire le contraire, on peut me mentir, on peut me raconter n'importe quoi. Je sais que je suis un enfant de Dieu et personne ne m'enlèverait ça de mon cœur. Vous devez être positionné, frères et sœurs. Il a refusé l'identité qui n'avait pas d'avenir et il a dit oui à l'identité qui allait avoir un avenir éternel. Si ce matin quelqu'un n'a pas cette identité claire, vous êtes tiraillé entre le monde et les choses de Dieu, vous ne savez pas, vous basculez de l'un à l'autre et tout ça vous met mal à l'aise, vous réveille la nuit, vous ne savez pas où vous en êtes vraiment. La première chose que Moïse a faite, il a d'abord refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il reçoit donc ainsi le statut d'enfant de Dieu. Éphésiens 3:4, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Est-ce que vous êtes son enfant d'adoption qui crie « Abba, Père, je sais que tu es mon papa. Je sais et je ne douterai jamais de ça. » Frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit se bâtir dans votre vie. C'est quelque chose qui doit se construire sur les fondements de votre foi. Ça doit être intégré, pas seulement entendu, pas seulement lu. Ça doit être intégré profondément pour faire partie du fondement de votre vie. Deuxièmement, le verset suivant. Il va faire un deuxième choix. Il va dire, pour être positionné dans une foi qui tient dans la durée, il va dire, je préfère être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Waouh, qu'est-ce qu'il avait compris, Moïse ? Et je vous rappelle, il n'avait pas encore, sauf erreur, il n'avait pas encore vécu le buisson ardent, pas encore reçu cette révélation incroyable de la présence de Dieu, de son nom, etc. Il fait donc un deuxième choix d'adulte. Moïse devenu grand, choix d'adulte. Il choisit de se positionner résolument du côté du peuple de Dieu. À l'époque, c'était quand même une vision de foi remarquable. Parce que le peuple de Dieu, à l'époque, c'était une race d'esclaves. C'était même pas un peuple organisé. C'était juste une bande d'esclaves. Ils n'avaient pas de privilèges, ils n'étaient rien, ils n'avaient pas d'avenir, rien. Et Moïse voit dans ses frères qu'il va visiter, il voit dans ses esclaves qui peinent et qui n'ont aucun avenir et qui n'ont aucune joie, aucune paix, etc. Il voit là-dedans le peuple de Dieu. Frères et sœurs, comment vois-tu l'Église ? Comment vois-tu l'Église ? Pour commencer à prendre une position ferme et s'attacher au peuple de Dieu, il faut d'abord reconnaître le peuple de Dieu. Il faut aimer le peuple de Dieu. Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Si tu dis, ouais, moi j'aime celui-là, mais je n'aime pas l'Église. Je veux bien aimer 2-3 chrétiens qui sont des bons chrétiens, mais tous les autres... Est-ce que tu aimes le peuple de Dieu parce que Dieu aime son peuple ? Reconnais le peuple de Dieu. Bien sûr, le peuple de Dieu n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce que je suis dans le peuple de Dieu. Donc il n'est pas parfait, forcément. Mais j'aime ce que Dieu aime. Et si Dieu dit, c'est mon peuple, tu n'as pas le droit de le critiquer, alors je dois être d'accord avec ça. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec mon peuple. Même s'il y a des erreurs, des fautes, et si le leadership ne te plaît pas toujours, eh bien, le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui doit être reconnu. Bien sûr, nous regardons l'Église et nous vivons dans l'Église. Et j'aimerais vous dire, ne vivez pas en marge de l'Église. Certains vivent à la périphérie de la communauté. Ils prennent ce qui est bon. Au programme, il y a des choses intéressantes. Il y a des bonnes choses à apprendre. Il y a des bonnes choses à recevoir. Et ils restent à la périphérie parce que s'engager un peu trop, ça va forcément être un problème, tôt ou tard. Ils vont dire, je vais souffrir, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas être déçu. Je ne veux pas avoir des fausses attentes. Donc, on reste en périphérie. On n'est pas dedans, on n'est pas dehors, on est à la périphérie. Moïse va dire, il préfère être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc le peuple va souffrir. Mes amis, lorsque l'Église est dans une souffrance, comment est-ce que tu réagis? Tu préfères vite te retirer, être en dehors? Moïse préférait, s'il y a une souffrance dans le peuple de Dieu, je suis avec, toujours avec, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Car, écoutez bien, le peuple de Dieu, quel qu'il soit, est une protection pour ta vie. Il y a une protection. Il y a ici des personnes qui ont été protégées de la mort parce qu'ils étaient au culte un dimanche matin quand le Seigneur a prophétisé par quelqu'un de tout simple, une parole précise qui a été une flèche qui les a empêchés de se suicider. Je connais quelqu'un qui a été empêché d'envisager un avortement parce qu'il y a une parole prophétique. Il y a des gens qui ont été empêchés de divorcer parce qu'il y a eu une parole prophétique. Vous avez été protégés par l'Église. Alors ce matin, nous devons, comme Moïse, aimer l'Église. Choisir d'être dans le peuple de Dieu et non pas la périphérie du peuple de Dieu, mais dans le peuple de Dieu. Parce que vous avez plus à recevoir que vous ne pensez. Plus à recevoir ce que vous ne pensez. Vous recevez bien plus. Il y a des personnes à qui j'ai dit, toi, tu ne serais pas ici si les gens que tu ne connais même pas n'avaient pas prié pour toi. Vous êtes le produit de la prière, de l'intercession de l'Église. Vous êtes aujourd'hui là où vous en êtes parce que des gens inconnus ont prié pour vous. Ça, c'est l'Église. Et Moïse avait compris que je reconnais que cette bande d'esclaves, c'est le peuple de Dieu parce que je vois les choses comme Dieu les voit. C'est pour ça que la foi se positionne. Mais, il y a un combat. Et le texte nous dit qu'il y a le peuple de Dieu et de l'autre côté, il y a la facilité du péché. Le refus du péché est toujours un combat pour lequel il faut se préparer constamment. Et l'Église, justement, est là pour nous encourager à nous préparer en permanence au retour de Jésus et au combat contre le péché. Car aujourd'hui, si vous n'êtes plus dans l'Église, et même si vous écoutez les meilleurs messages sur Internet, vous n'êtes plus vraiment protégé par rapport à la compréhension du péché. Parce que je crois que quand Dieu parle, il y a des choses qui se mettent dans les cœurs et qui résonnent tellement qu'on part avec, qu'on n'oublie plus. Le péché est banalisé. Oh, c'est pas grave, le péché. Oh, c'est pas grave parce que je peux demander pardon juste après. C'est pas grave. Seigneur, m'accueille, je vais demander pardon, puis ça ira très bien. Tu ne sais pas que tu te mets en danger. Et tu te demandes pourquoi tu n'as plus la paix, pourquoi tu n'as plus le punch pour le témoignage, pourquoi tu n'as plus la force pour l'intercession. Tu pries une minute, puis c'est déjà fini. Parce que tu as banalisé le péché. Imprudence, négligence, manque de discipline, tout cela, c'est quand on s'éloigne de la communauté. Dieu demande un positionnement. Et comme je l'ai dit, Moïse pouvait se positionner parce qu'il en avait la force déjà à ce moment-là. Mon frère, ma sœur, tu as la force ce matin pour te positionner fermement, pour choisir pour le peuple de Dieu, quitte à être maltraité avec lui, plutôt que d'avoir une jouissance du péché. Et quand tu n'es plus dans le peuple de Dieu, la jouissance du péché va venir se solliciter, crois-moi, bien plus fortement encore. Le monde est rusé pour te faire des propositions incroyables. Troisième verset, il nous est dit au verset 26 maintenant, que Moïse, devenu grand, choix d'adulte, il estime en effet que l'opprobre de Christ est la plus grande richesse que le trésor de l'Égypte, car il regardait la récompense. L'apôtre Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 6, 17, « Recommande aux riches du présent siècle de l'orgueilleux de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Moïse va se positionner dans les valeurs invisibles et éternelles. Frères et sœurs, pour que la foi soit une foi qui est positionnée dans la durée, il faut être accroché aux choses invisibles. Les parents de Moïse voyaient l'invisible. Moïse voyait son identité dans l'invisible, fils de Dieu. Il voyait sa position dans le peuple de Dieu d'une manière spirituelle et invisible. Ici, il va renoncer au trésor d'Égypte parce qu'il voyait dans l'invisible. Frères et sœurs, si vous êtes uniquement en contact aux choses visibles, votre discernement spirituel va baisser de niveau. Si vous êtes intéressé et attiré par les choses invisibles et bibliques, pas des choses n'importe quoi, bibliques, alors votre âme, votre cœur, votre esprit va grandir et vous allez vous attacher forcément aux choses qui sont invisibles. Où se situe le vrai trésor de ma vie? Moïse ne connaissait pas encore la recommandation de Timothée par rapport aux riches, mais il avait compris dans son cœur où se trouvait le vrai trésor. Mon frère, ma sœur, où se trouve ton trésor aujourd'hui? Quel est ton trésor? Qu'est-ce qui est cher à ton cœur? Pourquoi est-ce que tu es prêt à tout payer, à tout laisser? Comme cet homme qui a trouvé ce trésor dans le champ, il va tout vendre pour avoir le trésor. Quel est ton trésor? S'il faut choisir entre l'un et l'autre, comment choisis-tu ton trésor? Il est dit dans Hébreux 12, juste après, versets 1 et 2, 3, « Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi et qui mène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte et il s'est assis à la droite de Dieu. Considérez donc celui qui a enduré ça pour que vous ne vous relâchiez pas l'âme découragée. » Donc le Seigneur veut nous dire que nous avons besoin de placer notre regard de la bonne manière, de regarder les valeurs éternelles, les récompenses éternelles. Et lorsque nous lisons le sermon sur la montagne, nous voyons beaucoup quelles sont les récompenses. Car, comme Moïse, nous avons compris que les trésors de l'Égypte sont passagers. Les choses terrestres sont passagères. Personne ne vient avec rien dans ce monde et on n'emmène rien. Tout est passager, tout est transitoire. Mais les choses éternelles subsistent à jamais. Les choses éternelles doivent être notre trésor. Pose-toi la question, où est ton trésor aujourd'hui? Définis tes valeurs. J'aimerais lire ce que André Murray a dit, lui était un commentateur, un pasteur, fin du 19e siècle, il va dire ceci. Si de nos jours, la foi est faible, c'est qu'il n'y a pas de séparation d'avec le monde. On le ménage pour avoir sa part de jouissance et d'honneur, pour autant que ça puisse se concilier avec une certaine profession de piété. Mais dans cette atmosphère mondaine, la foi est étouffée. On oublie que le monde dans lequel nous vivons est encore le même monde qui a rejeté Christ. C'est intéressant cette pensée. Il y a ce manque de séparation aujourd'hui. On a la piété et on a les jouissances des richesses. Alors Dieu ne nous empêche pas, puisqu'il est dit dans Timothée justement, Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. Mais lorsque les richesses s'accumulent, n'y attachez pas votre cœur, dira encore le texte biblique. N'y attachez pas votre cœur. Et cette séparation dont il est chaque fois question dans ces versets 24, 25, 26, 27, cette séparation entre ce qui est terrestre, humain, voire diabolique, voire séduction, et les choses éternelles, doit être claire pour nous si nous voulons une foi qui perdure et qui se tient dans la durée. Je termine par le dernier point, le verset 27. C'est par la foi bien positionnée, d'un homme devenu grand, c'est-à-dire un choix d'adulte que nous sommes ce matin. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Séparation encore une fois, séparation. Car il tint ferme comme voyant invisible. Je termine courtement par ce dernier verset. Lorsque vous vous séparez vraiment de ce que Dieu n'approuve plus ou pas, pour vous positionner pour les choses que Dieu aimerait voir grandir dans votre vie, alors se lèvera la colère du roi. Ça veut dire, alors l'ennemi se lève. Ce n'est pas le roi Christ, c'est le Pharaon ici. Alors l'ennemi va se dresser contre vous pour vous menacer. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Tu vas voir tout ce qui va t'arriver. La menace, la colère de l'ennemi va se lever lorsque tu te positionnes pour Christ et pour les choses éternelles. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Lorsque je prends une position de m'approcher de Dieu, de l'adorer davantage, de lire ma Bible, de prendre du temps pour Dieu, d'être un témoin, tout à coup, il y a plein de problèmes qui surgissent que je n'avais pas avant. La colère du roi se lève. Lorsqu'il quitte l'Égypte définitivement, là, l'ennemi vient le rattraper. Il a fait des choix. Ses parents font des choix. Il a fait le choix d'être dans une identité d'enfant de Dieu, de se positionner pour le peuple de Dieu, pour les trésors éternels. Et maintenant, il quitte l'Égypte et là, le roi essaie de le rattraper. L'ennemi essaie de le garder. Mais lui, il tient ferme. J'ai souligné et encadré ce mot dans ma Bible. Il tient ferme. Pourquoi ? C'est ma conclusion. Il tient ferme parce que non seulement il a vu la récompense, comme le verset précédent, mais il a vu celui qui est invisible. Alléluia ! Il a vu celui qui est invisible. Il a eu une révélation du Seigneur lui-même. Lorsque vous avez la révélation du Seigneur lui-même, celui qui est invisible avec votre cœur, votre foi, vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous avez été touché, lui vous a touché, vous l'avez touché, eh bien à ce moment-là, vous tenez ferme parce que c'est quelque chose qui est profondément ancré, enraciné en vous et personne ne peut enlever ça de votre cœur. Il tient ferme parce qu'il a vu celui qui est invisible. Ce matin, nous comprenons cette séparation nécessaire, la foi persévérante nécessaire, faire la part des choses entre ce qui est passager et ce qui est éternel, la part des choses entre l'identité du monde et l'identité en Christ, la part des choses entre les trésors de tout genre, les privilèges, les avantages, et les trésors invisibles. Même l'opprobre de Christ est un privilège plus grand. L'apôtre Paul va le dire, j'avais tout, mais je considère tout comme du rebut, comme de la boue, simplement pour être avec Christ et pour le connaître. Amen.